Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix de la Plume. Je suis Aurore, votre animatrice pour l'heure, et comme tous les deuxièmes samedis du mois à 19h. Le 20 mars, que se passe-t-il le 20 mars? Le printemps? Oui, y aurait-il pas autre chose qui se passe le 20 mars? Anne, le 20 mars, ça te dit quelque chose? Non, pas d'idée?
Pas trop.
Alexandra, le 20 mars?
Non, pas d'idée. Non.
Eh bien, c'est la journée mondiale du bonheur. Ce soir, notre thème tournera donc autour du bonheur. Ah, merveilleux, n'est-ce pas?
Super.
Bravo.
Nous parlerons plus précisément du bonheur au travail et de management avec l'auteure Anne Chanard, présente avec nous. Bonsoir Anne.
Bonsoir Aurore.
Et avec Alexandra, working girl active et positive, qui a un poste à responsabilité, mais je n'en dis pas plus. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Aurore, bonsoir Anne.
Alors Anne, avant d'avoir écrit la trilogie du bonheur au travail, tu exerçais déjà et tu exerces toujours un métier en relation avec ce thème. Un métier que moi je qualifierais un peu quand même de disruptif et paraît-il même sujet à controverse. Explique-nous ce que tu fais.
Alors, non, je ne l'exerçais pas. Je l'ai exercé, j'ai décroché le job parce que j'ai écrit la trilogie du bonheur au travail.
Ah !
Et ce job, c'est Chief Happiness Officer. D'ailleurs, dans le bouquin, je me moque allègrement des Chief Happiness Officer parce que ça fait sourire. Et j'aime bien dire que quand je fais rigoler, au moins, j'ai une partie du boulot qui est déjà faite. Donc, responsable du bonheur en entreprise. Donc, je note, Aurore, la date du 20 mars. Voilà, je vais bassiner mes collègues demain. Oui, donc, Chief Happiness Officer, c'est en effet, ça prête à sourire, mais je prends ce métier néanmoins très au sérieux, même si je ne me prends pas au sérieux. Parce que le bien-être en entreprise et les bonnes relations de travail, voilà, pour moi, c'est vraiment important. Et je travaille dans une école d'ingénieurs du numérique qui s'appelle Effray Paris. Et voilà, on a besoin de bien-être et de bonnes relations entre élèves, professeurs, staff administratif, enseignants extérieurs, etc. Donc c'est quelque chose...
Donc tu t'occupes de tout le monde ?
Je m'occupe de tout le monde, ouais.
Wow.
C'est une lourde charge.
Ah, tu m'étonnes. Il y a combien d'élèves dans ton école ?
3300.
Excuse-moi, c'est énorme.
C'est énorme, mais ils sont adorables.
Oh, ça c'est mignon. Et 3300 élèves adorables, j'y crois pas trop quand même. J'entends souvent parler d'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est quelque chose que, selon toi, fait partie du bonheur au travail, cette éthique ?
Oui, alors, la première mission que je me fixe, en fait, c'est de donner du sens. Quand on travaille dans une école d'ingénieurs, avant, j'ai travaillé dans l'informatique. Quand on travaille dans une école d'ingénieurs, trouver du sens à son travail, c'est quand même relativement simple. On amène des lycéens au grade d'ingénieur. Donc, pendant ces 5 ans qu'ils passent à l'école, ils changent considérablement. On les voit... On les voit se transformer. C'est extrêmement émouvant de voir ce changement. Et donc, l'économie sociale et solidaire, ça fait partie des missions, des sujets que je porte. J'ai décidé de n'avancer aucun dossier moi-même, mais de soutenir les projets des autres. Et là, récemment, on a on a un problème pour certains étudiants qui sont vraiment en grave difficulté financière pour les raisons que vous connaissez. Et donc, on a décidé de créer une épicerie solidaire au sein de l'école.
C'est une belle initiative. Hein.
Et voilà, c'est quelque chose qui a du sens et en effet qui mobilise les élèves et les enseignants et les administratifs.
Donc le principe, c'est un peu sur le même principe que les Restos du Cœur. On achète quelque chose et on vient le déposer à l'épicerie solidaire de l'école.
C'est ça. Alors on a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Villejuifois Solidaire, puisque l'école est à Villejuif. Et en échange de volontaires, de bénévoles qui viennent faire des ramasses et tenir la boutique, une demi-journée par semaine, les élèves... qui sont en difficulté pourront venir chercher, faire leurs courses pour quelques centimes, en fait. La présidente de l'association nous disait, avec 2 euros, on remplit un caddie.
Ah ouais.
Voilà.
C'est une belle initiative, mais ça doit leur mettre du baume au cœur aussi, parce que quand on est en difficulté financière, c'est vrai que manger, c'est un des premiers problèmes qu'on peut rencontrer.
Et on ne peut pas dire, on va réfléchir, on revient vers vous dans un mois, quoi. Il faut réagir tout de suite. Et les étudiants se sont également mobilisés pour organiser un stud live, donc un live pendant 3 jours, avec des gamers type Z-Event pour récupérer des fonds et les donner au Secours Populaire.
D'accord.
Pour la même raison, pour les étudiants en difficulté financière, mais là, au niveau national.
D'accord. Eh bien, c'est bien, une école engagée.
Exactement. Et les étudiants sont engagés et ils me demandent souvent comment est-ce que je peux faire pour être bénévole. Et c'est chouette de voir ça.
Et donc, du coup, tu as décroché ce job après avoir écrit le livre. Parce que là, on parle d'une trilogie. Alors, on va parler peut-être un peu plus du tome 3 aujourd'hui parce que c'est le dernier né. Mais comment t'es venue l'idée d'écrire un roman sur le bonheur au travail ?
Alors, en 2013, j'ai repris des études. J'ai fait un MBA. Et à la fin d'un MBA, il faut écrire une thèse de MBA. J'ai écrit avec une directrice de thèse fantastique. On est devenues copines, quoi. Et de là est née l'envie de coécrire parce que elle m'a aidée de ouf. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer comme elle m'a aidée. Voilà. Je suis nulle pour écrire un plan, par exemple. J'ai oublié ça depuis l'école. Et elle m'a beaucoup aidée. Et donc après, dans tout mon réseau, j'ai pris mon porte-voix, j'ai dit je cherche des partenaires pour coécrire. Et puis j'ai un ami qui m'a proposé de démarrer un projet. Il démarrait tout juste un projet. Ils avaient juste le début du bouquin. C'est un stagiaire qui découvre le monde de l'entreprise. Et pour faire une entreprise bien ringarde, bien
à l'ancienne,
ils avaient choisi un fabricant de bougies. Et donc, le rôle de ce stagiaire, c'était de créer la bougie numérique, de numériser l'entreprise en quelque sorte. Et donc, j'ai rejoint, ils étaient 3, donc on a coécrit à 4. Et puis, à un moment, on écrivait, et puis les 3 tomes me sont apparus. On ne savait pas où on allait, et tout d'un coup, je me suis rendu compte. Enfin, j'ai vu les 3 tomes, quoi. Et donc, pour le tome 2, on était 5, et pour le tome 3, on était 7.
Eh bien, dis donc, ça fait beaucoup d'auteurs pour un seul livre.
Oui, parce qu'on s'enrichit des histoires, des expériences des autres. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt marketing, communication, donc j'ai des histoires de com, mais j'étais avec des financiers, avec des...
C'est les... Sur les 7 derniers, et on retrouve les 4 du début
Pas tout à fait. Sur les 4 du début, il n'y en a que 2 qui ont voulu montrer leur nom. Donc c'est mon éditrice, Corinne Dargis, et moi-même. Ensuite, sur les 5 suivants, Corinne est restée, et on a eu 3 nouveaux co-auteurs. Et il faut que je les cite ?
Non, bah, pas forcément. Comme tu veux.
J'ai toujours peur d'en oublier.
Je comprends.
Et sur le tome 3, on a à nouveau recruté et on s'est retrouvés à 7. Les 5 du début sont restés, sauf l'éditrice qui s'est retirée. Donc on a recruté 3 nouveaux co-auteurs à nouveau.
Donc un bon petit roulement quand même, donc c'est chouette. C'est chouette, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a une lectrice du roman du tome 3, Le bonheur au travail, Alexandra. Mais au-delà d'être une lectrice, tu as aussi un boulot dans ta vie. Dis-nous ce que tu fais.
Et donc oui, je suis responsable financière dans une entreprise internationale implantée localement dans le Compiègnois.
D'accord. Responsable financière, c'est un gros boulot, ça.
Exactement. J'ai autour de moi une équipe de 5 personnes sur un site industriel. Et en effet, le quotidien d'un financier n'est pas toujours calme, et avec beaucoup de jobs à faire au quotidien. Mais également, quand on a une équipe sous sa responsabilité, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde vienne au travail sans boule au ventre. Et je pense que c'est aussi notre job en tant que manager d'une équipe.
Et c'est bien, j'aimerais bien que tous les managers pensent comme toi. Et comme tu travailles dans un grand groupe et que tu as lu le livre, ma première question c'est est-ce que tu reconnais des situations ou des comportements dans ta vie quotidienne que tu as lus ?
Oui. Beaucoup d'exemples. Alors, je ne sais pas forcément
c'est pas
vrai, ce que
c'est
je...
C'est pas une caricature. Donc
non, on est loin d'être dans une caricature. C'est pas forcément ce que moi, j'ai vécu, mais c'est des choses qu'on voit et où j'ai pu vivre aussi dans le passé. Quand on voit l'exemple, on parle des stand-up meetings, là, 30 minutes pour débriefer sur la semaine. C'est clairement des choses qu'on a au quotidien. Et ça, pour le coup, que je vis encore au quotidien avec des KPI. Clairement, ça m'a bien fait rire. En plus, comment c'est déformé par Jup, parce qu'il entend les mots. C'est KPI, c'est pas du tout écrit comme on le voit actuellement. Et oui, c'est totalement des situations qu'on vit au quotidien. En tant que dans une grande entreprise. Hein.
Dans le tome 2, il y a un lexique pour comprendre le vocabulaire obscur
de l'entreprise.
De l'entreprise, ouais. Je vous le conseille.
Anne, tout à l'heure, tu disais que du coup, vous aviez été jusqu'à 7 pour écrire. Est-ce que c'est 7 personnes que tu connaissais ? Parce que du coup, on parle de management avec Alexandra, mais j'imagine que ça se manage aussi une équipe de 7 personnes pour écrire ensemble.
Oui, alors on a créé une méthode de co-écriture. On la donne d'ailleurs à la fin du 3e tome. Donc vous pourrez.
Une recette miracle.
Vous pourrez appliquer la recette et co-écrire sans problème. Vraiment, ça marche. Cette méthode, on l'a construite au fil du temps. Au départ, c'était inspiré par l'éditrice qui avait déjà écrit des bouquins. Donc qui savait que quand on commence un livre, on ne connaît pas forcément la fin, on n'en a pas forcément le plan, mais ça vient. Et elle avait cette confiance nous a porté pour écrire. Donc ça, c'est la première règle, en fait. Je peux parler des règles maintenant ?
Vas-y.
Super. C'est la première règle, en fait. C'est quand on écrit, on va de l'avant, on ne regarde jamais en arrière. Et quand on est à plusieurs, on ne se juge pas, on ne se critique pas. Même si on se dit, ça va comme un cheveu sur la soupe, mais ça va faire... Non, ce n'est pas grave, on verra après. Donc on fonce et on va jusqu'à la fin du livre.
Et la fameuse règle, c'est pour écrire, il faut écrire, c'est ça ?
Alors ça, c'est la deuxième règle. Ah, merci.
Pardon, c'était la transition.
j'ai fait... J'ai inversé, en effet. mais l'autre règle, c'est pour écrire, il faut écrire. C'est-à-dire que tu me demandais comment j'avais recruté. En fait, j'ai plein de gens qui me disent « Oh, t'écris, c'est trop bien, moi aussi, j'ai envie d'écrire et tout. » Je dis « Bah oui, qu'est-ce que t'as écrit ?»« Bah rien.
Bon. » J'ai envie d'écrire, mais j'ai rien écrit.
Voilà. Okay. Donc, il n'y a pas à tortiller. Pour écrire, il faut écrire. Donc... pour le tome 3, j'étais au club des shows, le club des Chief Happiness Officers. Donc c'est un très gentil club. voilà, on échange les bonnes pratiques. Et j'ai fait une conférence sur le bouquin, le tome 2. Donc. Et puis à la fin, on a fait un petit atelier d'écriture. Et à la fin, j'ai dit, au fait... si ça vous a branché d'écrire, je cherche des co-auteurs pour le tome 3. Et c'est comme ça que j'ai recruté, entre guillemets, les 3 co-auteurs du tome 3, les 3 nouveaux. Donc, Christophe Desproges, Aurore Gébleu et Lucra Festin. Pardon, j'ai du mal avec les noms parfois. l'examen de passage, en quelque sorte, c'était le héros était en train de se demander comment il allait diriger son entreprise, parce qu'il venait d'arriver au poste suprême. et comment diriger son entreprise. Et donc, chaque co-auteur devait écrire un chapitre pour dire comment il se débrouille pour se faire une opinion sur comment il va diriger son entreprise. Donc, il va en parler à sa femme ou à des consultants ou à des coachs ou à son psy.
L'imagination était là, le thème était posé, mais après c'était libre.
Voilà, exactement. Et donc chaque co-auteur, enfin ceux qui ont produit quelque chose, ils ont proposé un chapitre et ça a été le début du troisième tome en fait.
D'accord. Et vous étiez tous proches physiquement, j'entends, pour pouvoir se réunir régulièrement
Non. On a quand même une co-autrice. Je vais donner son nom, Élodie Chevreau. Merci Élodie. Elle a fait quand même Saint-Jacques-de-Compostelle pendant l'écriture. C'est-à-dire que parfois, elle nous appelait, elle était sous la tente. On ne l'entendait pas, elle ne nous entendait pas.
Un problème de réseau.
Voilà, donc on a pratiqué le télétravail bien avant le Covid. Et ça a fonctionné d'enfer. Si tant est qu'on se réunissait quand même de temps en temps, mais c'était... on se parlait une fois par mois et on se voyait en vrai peut-être deux ou trois fois pendant le livre. C'est tout.
D'accord. Ok. Eh ben, donc oui, précurseur du travail à distance. C'est vrai que j'imagine que Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une belle aventure pour avoir envie d'écrire, en tout cas. Mais par contre, oui, pour se connecter, c'est plus compliqué.
Oui, et une autre de mes co-autrices, d'ailleurs, Sabrina Miki, est lyonnaise. Ça ne nous a jamais posé de problème.
Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais toi, tu es parisienne.
Et moi, je suis parisienne. Voilà.
Donc, il y avait un petit noyau autour de Paris. Et puis après, ça se dispersait dans toute la France. Quoi.
C'est ça. Ce n'était pas, en tout cas, un critère.
D'accord. C'est bon à savoir aussi. Donc, on peut écrire un livre en étant 7 et en étant à distance. Ça, c'est quand même beau. Alexandra, est-ce qu'en entreprise, ça marche pareil? Est-ce qu'on peut mener des projets en étant 7 personnes ou plus ou moins et en étant à distance?
Et étonnamment, oui. Et justement, on s'en rend d'autant plus compte dans le contexte actuel où l'ensemble des collaborateurs sont isolés chez eux. Et en effet, on travaille des projets. On peut même travailler actuellement, par exemple, je suis aussi sur un projet où j'ai des collègues qui sont à l'autre bout du monde. Hein. On peut avoir des collègues qui peuvent être en Australie. Il faut juste...
C'est vrai que tu as dit que tu étais dans un groupe international.
Oui, donc il faut juste trouver les bons créneaux pour trouver...
Ah oui,
les...
Australie, oui.
Oui, c'est-à-dire qu'on commence tôt. Nous, on a une réunion qui commence à 8h30. Mais la collègue, il est déjà 18h, c'est sa fin de journée. Mais on arrive à faire des... On est dans un groupe de travail pour améliorer... des choses dans mon domaine financier. Et clairement, on est différents horizons et c'est vraiment d'un point de vue international et ça ne nous empêche pas d'avancer. Au contraire, aujourd'hui, avec l'ensemble des outils informatiques qui sont mis à notre disposition, on peut très facilement partager les outils, on communique. En plus, on a vraiment cette impression d'être à côté. Maintenant, avec les webcams, c'est totalement facile d'organiser et d'avancer sur des projets communs à distance.
Oh. Cool. Donc même dans les grandes entreprises, ça marche.
Oui.
Il y a quand même un chapitre du bouquin qui dit la difficulté qu'il y a en entreprise pour démarrer une réunion. C'est-à-dire que j'ai été démonstratrice dans une boîte qui vendait de la visioconférence. Et il y a des statistiques, il faut en moyenne 15 minutes pour démarrer une réunion en visio. Bon. Mais maintenant, on a fait des progrès par rapport à ça.
Oui. Je pense que depuis un an, il ne faut plus que 2 minutes peut-être, enfin, j'espère, parce que s'il faut 15 minutes à chaque fois...
Moi, j'ai une petite une bonne idée là, que j'ai vue là, lors d'une dernière réunion. Ce qui était pas mal, c'est quand on arrive à chaque fois, on voit toutes les personnes se connecter au fur et à mesure. C'est un peu bizarre, on dit tous bonjour à tour de rôle. Et là, ces derniers temps, j'ai assisté à une réunion. Et ce que j'aimais bien, c'était il y avait une petite musique, il y avait une première présentation et c'est marqué « Veuillez patienter, la réunion va commencer dans quelques instants ». Et je trouvais que c'était assez sympa pour quand tout le monde arrive, là, plutôt que d'être sur les bonjours, on voit les têtes des gens des personnes qui attendent. Là, ce côté un peu musical,
plus dynamique,
avec, c'était un PowerPoint tout basique, hein, avec des choses qui bougent. Mais dans tous les cas, ça amène une autre dynamique, c'est assez sympa.
je trouvais que cette présentation est... Et après, derrière, on démarre assez rapidement dans ce cas-là. On n'a plus ce côté où on s'est vu tous au fur et à mesure apparaître. Je trouvais que c'était sympa.
Oui, parce que du coup, la musique vous met dans une certaine ambiance, mais ça ne permet pas vraiment d'engager le dialogue non plus.
Oui, voilà. Bah, en fait, il y a la musique, donc personne ne parle forcément. Mais une fois qu'on coupe la musique, on dit bonjour, on démarre assez rapidement, du coup. C'est vrai que c'était pas mal. Puis c'est vrai qu'on peut avoir aussi ce côté à distance, à chaque fois, de perdre peut-être 15 minutes. Après, je pense qu'aussi, dans le cadre du travail à distance, en tant que... manager, il faut aussi accorder peut-être des 15 minutes de break à un moment donné dans la semaine pour parler aussi un peu d'autre chose que de toujours des réunions. En fait, ça peut être le côté
convivial
ouais, qu'il faut essayer de remettre en place parce que on peut vite se sentir isolé en télétravail.
C'est vrai, mais c'est pas forcément en début de réunion voilà, c'est le moment c'est de le faire en fait.
Oui, d'ailleurs, à l'école, on fait une opération maintien du lien en ce moment où on appelle un par un tous les élèves. Enfin, on est une centaine de volontaires pour le faire. Je ne suis pas toute seule.
Pour rappeler 3300 élèves.
voilà, c'est pour prendre des nouvelles, en fait, tout simplement. Et puis voir s'ils ont un matériel informatique suffisant, si on peut les aider sur... voilà, c'est important de maintenir le lien. Donc, en entreprise aussi, évidemment.
C'est ça, oui.
D'ailleurs, dans le tome 3, vous évoquez différentes formes de management. Donc là, c'est cool parce qu'on est entre nous, on a l'impression que la vie est rose, que le management est bienveillant partout. Dans le tome 3, on évoque différentes formes de management. C'est des choses que, du coup, les auteurs ont vécu, ont testé ou sur lesquelles ils se sont simplement documentés.
C'est du vécu, hein. L'histoire du digicode, là, c'est 100%, enfin voilà, j'ai un peu balancé, mais c'est 100% vécu. Hein. tout est vécu. De toute façon, il y a dans le bouquin, il y a nos expériences brutes. Hein. On n'est pas des, on n'a pas fait œuvre beaucoup d'imagination. C'est du 100% vécu et l'arbitraire hiérarchique et les réunions qui n'en finissent pas et les décisions qui ne se prennent pas. Et tout ça, c'est du 100% vécu aussi. Ouais. C'est pour ça que le héros cherche une autre méthode de gouvernance pour son entreprise.
Je ne dirais pas s'il y arrive ou pas. En tout cas, je souhaite à Jube qu'il y arrive. Quand on parle du coup de bonheur au travail, Alexandra, je sais que tu es quelqu'un de positif. moi, ce que je me dis, c'est est-ce que quand on travaille dans un grand groupe et qu'on a un poste à responsabilité, on arrive vraiment à sentir le bonheur au travail, à trouver un bon équilibre vie pro, vie perso?
Alors, le bonheur au travail, on ne le trouve pas toujours. Je pense qu'il faut aussi le chercher. On peut vite être pollué justement par des personnes qui ont un peu ce besoin de pouvoir, comme on l'illustre, hein, la personne du Digicode, clairement, c'est telle personne qui ouvre la porte. C'est grossi, hein, mais au quotidien, on peut être face à des personnes aussi qui ont ce besoin de pouvoir et qui ne vont pas forcément nous aider à trouver du bonheur dans notre travail. Ça, c'est clair, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut essayer de se dépolluer, un peu entre guillemets, hein, si je peux dire, de ce contact. Et en effet, après, on parle de concilier vie perso et vie professionnelle. Ben là, ça va être un équilibre qu'il va falloir se forcer. Ou par exemple, moi, je prends pour mon cas, je m'autorise des jours où je peux rester tard, mais je me dis, il y a des jours aussi, il faut quand même que je rentre de bonne heure pour aussi profiter de ma famille. Parce qu'à un moment donné, si des deux côtés, on n'a plus d'équilibre, ben, à un moment donné, on n'aura plus ce bonheur au travail. Parce qu'on va toujours se sentir comme une sorte de frustration de jamais être présent à la maison. Et puis quand on est à la maison, on va être frustré parce qu'on n'est pas assez au travail. Donc en fait, il faut un peu se forcer et peut-être essayer de se dépolluer. C'est pas évident, hein, parce qu'on a... Enfin, justement, on peut avoir la pression de certains de nos managers, ceux qui ont un peu ce côté de pouvoir. On peut être aussi sur le micromanagement où il y a des personnes qui ont tout le temps besoin de savoir tout ce qu'on fait. Donc forcément, ça va pas aider pour avancer. Mais après, je pense qu'il faut aussi s'assurer de prendre du recul et pas oublier de concilier les deux. Je pense que c'est important. Et après, moi, dans mon cas personnel, je pense que l'équilibre avec mon mari m'aide aussi. C'est une organisation aussi dans le couple.
Oui, en plus, t'es maman.
Oui.
On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais du coup, il faut emmener la petite à la crèche, tout ça. Donc, ça s'organise.
Exactement. C'est une organisation dans le couple. Mon mari a également un travail où il doit se déplacer d'un point de vue national. Donc, clairement, il faut concilier les deux. Mais c'est une organisation, ça va. On s'en sort pas trop mal, je pense, pour le moment.
et ça marche. Enfin, pour le moment, ça fonctionne. Possible.
Oui.
C'est possible. Oui. Même si tu as un poste à responsabilité, tu arrives des fois à partir plus tôt.
Oui.
Et ben, ça, c'est une bonne chose. Donc, quand on veut, on peut.
C'est ça.
Et non seulement on peut, mais on doit, puisque c'est l'exemplarité du manager, en fait. Il y a du mémétisme, hein, les salariés vont faire comme leur manager. Donc si le manager ne s'autorise pas à partir tôt, bah, les salariés ne le feront pas non plus, il y aura de la pression, etc. Vous parliez d'ego tout à l'heure. En fait, ça m'a fait penser que je n'ai pas parlé encore de la troisième règle.
Ah,
pour coécrire. Et la troisième règle, c'est le management de l'ego, en fait. C'est quand on écrit, quand on coécrit, on doit un petit peu laisser de côté son ego, dans la mesure où, une fois le premier jet terminé, on va relire absolument tout le manuscrit et le réécrire pour le rendre fluide, le rendre homogène, puisque évidemment il y a des petites différences d'écriture entre les auteurs, etc. Et donc ça, c'est un gros boulot, et c'est pour ça que Anne de Sizy partage la jaquette avec moi en plus gros, parce qu'on s'est tapé toutes les deux la relecture du manuscrit, la réécriture. Au début, on n'ose pas trop y toucher parce que on va la vexer, on va le laisser quand même et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on oublie qui a écrit quoi. Et là, boum, on y va, on coupe, on change, on réécrit. Voilà, c'est un gros boulot. Ça a pris quasiment le même temps que l'écriture.
Ah oui, en effet.
Mais voilà, pour ça, il faut que les co-auteurs acceptent. Donc, c'est la raison pour laquelle on annonce la couleur dès le départ et on dit, voilà, si vous venez pour affirmer votre style, pour vous exprimer avec un style unique et tout ça, c'est pas l'endroit. Parce qu'ici, on va lisser votre écriture pour faire en sorte qu'elle corresponde au ton général du livre. Et donc, ce n'est pas le lieu pour exprimer une singularité.
Oui, c'est écrire à plusieurs d'une même voix.
Alors, on peut exprimer une singularité quand même, mais le ton doit néanmoins être le même. Et donc, on va lisser le style et tout ça. Et dans les personnes intéressées par la coécriture, il y en a qui ont dit « bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas ». Et je l'accepte et je le respecte. Hein, et parce que voilà, c'est quand même une discipline à se donner, que voilà, ce qu'on écrit ne va pas forcément rester intact au moment où on publie. Mais c'est justement ça qui fait l'intérêt, c'est qu'en l'occurrence, on savait qu'on allait être publié. Donc c'est un énorme avantage. Et on parlait du sens en tout début d'émission. Mais voilà, le sens était évident. On savait qu'on allait être publié à la fin. Donc, pour être publié avec cet objectif commun, eh ben on acceptait de mettre un petit peu de son ego de côté. Et c'est un petit peu ça qu'on fait en entreprise aussi. Si ce qu'on fait en entreprise a du sens, eh ben on accepte aussi de... Et c'est sans douleur.
Il faut toujours donner du sens à nos tâches. C'est pas toujours évident. On n'a pas toujours des tâches qui sortent sur le... qu'on a l'impression qu'ils apportent de la valeur ajoutée. Ou
c'est pas fun,
voilà, il y a des tâches, enfin, surtout en finance, hein, il y a aussi des tâches qui ne sont pas du tout... qui ne nous tirent pas vers le haut, mais il faut essayer de retrouver si cette tâche, on l'a fait, essayer de redonner du sens à pourquoi on l'a fait. Derrière, il faut se dire qu'elle apportera quand même quelque chose, et ce n'est pas toujours évident. Et c'est vrai que c'est important de redonner du sens à ce qu'on fait au quotidien.
Très bien. Et puis en plus, bah, j'entends aussi une façon de gérer le conflit. Si c'est transparent dès le début, si les règles sont transparentes dès le début, derrière, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'ego qui va spécialement ressortir.
C'est ça.
Parce que...
C'est ça. Et enfin, on a eu une interview, une conférence après la sortie du bouquin où... à un moment, quelqu'un a demandé, mais c'était qui le chef? Et puis les gens se sont retournés vers moi. Mais je n'avais pas eu l'impression d'avoir été le chef pendant la coécriture. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ah ouais, peut-être C'est vrai, c'est moi qui écrivais les comptes rendus de réunion, qui maintenait à jour le tableau Excel des chapitres. Ah ouais, peut-être que j'étais un peu le chef, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas...
Mais ça s'est fait naturellement.
Ça s'est fait de manière horizontale, quoi. Et d'ailleurs, si je peux faire une digression, ce style d'organisation, je l'ai demandé dans mon école, puisqu'on m'a proposé de devenir référente égalité femmes-hommes. Et donc, se créer un pôle, le pôle égalité des chances et diversité, avec donc l'égalité femmes-hommes, mais également le handicap, l'ouverture sociale, la vie scolaire, etc. Et j'ai dit d'accord, mais à condition qu'on soit tous au même niveau et qu'on s'entraide, qu'on n'ait pas un chef au-dessus de nous.
C'était accepté.
Et ça a été accepté. Et pour l'instant, ça fonctionne. C'est-à-dire que, OK, j'ai ma casquette égalité femmes-hommes, mais là, en ce moment, ouverture sociale, vie scolaire, bah, y a des forts besoins. Et ben, je vais pas dire ah ben non, c'est pas mon job. Voilà, je bosse en ce moment pour ce projet d'épicerie solidaire, comme si c'était le mien, quoi. Et j'accepte que le chef de projet, bah, ce soit le responsable de la vie scolaire, parce que c'est comme ça que ça tourne. Et comme ça, on est plus efficace, je trouve. Voilà.
Donc une organisation plus linéaire finalement,
ouais,
que hiérarchique.
Plus plate, ouais.
Avec une autonomie au final.
Je pense que et c'est on ça. Est tous oui. très autonomes. Ouais. Mmh.
Ça favorise la confiance finalement, donc la prise d'initiative,
prise de décision aussi.
Enfin autonome, non, parce qu'en fait on découvre nos postes, on est tous nouveaux sur le job, parce qu'on remplace une personne qui faisait tout ça, et donc on découvre chacun, donc on s'apprend mutuellement et on monte en compétences ensemble en fait.
Et vous apportez tous aussi votre expérience dans d'autres univers aussi.
Oui.
Et l'avantage d'être plusieurs pour remplacer une personne, c'est que du coup, chacun a des compétences différentes et ça diversifie aussi la vision.
C'est ça.
Cool. Allez, petite dernière question. Anne, est-ce que tu as des projets pour 2021? Parce que maintenant que cette trilogie est sortie l'année dernière, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Est-ce que... t'as envie d'écrire de nouvelles choses ou là, du coup, c'est plutôt boulot en ce moment?
Alors, avec la fin de la trilogie, je suis un peu orpheline. Là, j'ai plus de projet d'écriture hein, et c'est dur. En ce moment, de la même manière, je crie sur tous les toits, je cherche un projet de co-écriture. Voilà, donc c'est fait. Je cherche un projet de co-écriture.
Avis aux auditeurs et aux écrivains qui nous écoutent. Voilà, vous pouvez lire Le Bonheur au Travail, vous faire un avis et puis n'hésitez pas à contacter la radio ou à me contacter moi directement. Je pourrais relayer le message à Anne si vous êtes intéressée pour une aventure de co-écriture. une question importante. Pour lire ce tome 3, faut-il avoir lu les précédents?
Pas du tout. Non, à chaque fois, il y a...
je vois Alexandra, tu...
Ouais, moi, j'ai pas lu les précédents. Et du coup, j'ai envie d'aller les lire, mais ça m'a pas empêché de lire le tome 3.
Très bien.
Merci de valider.
Il y a une préface un petit peu qui rappelle le début, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Très bien. Donc, du coup, c'est un tome qui peut se lire seul. Et qui donne envie de lire ce qui a été écrit avant. Ça, c'est pas mal. J'aime bien le principe. Je commence par le 3 et puis, si ça me plaît, j'irai lire le 1
et le
2. On
peut tout à fait marcher comme ça.
peut-être une chose importante aussi, c'est dire à nos auditeurs où on peut trouver ce roman sur le bonheur au travail.
Alors oui, on n'a pas parlé de l'éditeur, mais l'éditeur, c'est Les Passagères. Donc, on trouve le livre, évidemment, sur leur site internet, hein, Les Passagères. Dans les très bonnes librairies, évidemment, dans votre librairie, à la FNAC, sur Amazon même.
C'est un livre qui est distribué, comme tous les autres livres.
Oui, oui. Voilà.
D'accord, parfait. Et si jamais nos auditeurs souhaitaient un livre dédicacé, ils peuvent peut-être aussi me faire signe. Et puis,
Aurore, tu veux faire l'intermédiaire?
D'ailleurs, je vois qu'Alexandra a amené son livre.
Oui, moi, je voudrais bien ma petite dédicace, s'il vous plaît.
Bien volontiers.
T'as raison d'en profiter. C'est le moment ou jamais. Eh ben, merci beaucoup, Anne, pour ce partage d'expérience. C'était vraiment intéressant, tout ce que tu fais, parce que tu cherches une coécriture pour 2021, mais tu as déjà beaucoup de projets de par ton travail. Et merci, Alexandra, pour ce témoignage très inspirant aussi sur comment on fait quand on est une femme, qu'on a une famille, qu'on a un poste et qu'on travaille dans une grosse boîte. Non, c'est pas forcément la galère. On peut s'organiser et ça peut fonctionner. Et c'est important de le souligner.
Merci.
On va faire un petit interlude musical avant de passer à la suite. On va écouter Let's Love de David Guetta. Et voilà, nous sommes de retour dans La Voix de la Plume avec Anne Chanard, co-autrice du roman Journal déjanté d'un jeune DG, tome 3 de la saga sur le bonheur au travail, et avec Alexandra, responsable financière d'un gros groupe implanté dans le Compiénois. Et bien maintenant, si vous nous rejoignez, sachez qu'il est l'heure de l'atelier d'écriture. Et oui, j'aime toujours bien mettre mes invités en difficulté. Légèrement.
Merci beaucoup.
C'est un petit cadeau que je vous fais. Anne, Alexandra, je vous laisse vous munir de votre plus belle plume, d'une feuille et d'un crayon. Nos auditeurs peuvent faire de même si ça leur dit, puisque s'ils ont envie d'écrire avec nous et de faire l'exercice avec nous, après, ils peuvent envoyer leur production sur le Facebook de la radio ou sur mon Insta directement. Je pourrais les poster en story le moment venu. Donc, mon Insta, je rappelle, c'est AYGBleu. Alors, pour aujourd'hui, on va rester sur notre thème du bonheur au travail. Je vous propose un petit exercice original qui sera d'écrire un mail de démission à votre boss. Alors, on va rester dans l'actualité. On va dire qu'on est toujours avec cette crise sanitaire et qu'avec le télétravail à outrance, le management à distance, les confinements, etc., vous vous êtes rendu compte, comme de nombreux Français d'ailleurs, que vous aspiriez vraiment à autre chose. Et voilà, là, c'en est trop. Vous supportez plus votre boulot actuel et vous l'envoyez valser. Donc à travers ce mail de démission, vous vous lâchez, vous balancez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous n'avez pas osé dire pendant tout ce temps, pendant vos années de bons et loyaux services. Donc la règle, c'est que vous aurez environ 8 minutes pour écrire ce mail, puisqu'on est toujours sous la contrainte de temps quand on est dans l'émission. C'est à peu près le temps de deux chansons. Est-ce que vous avez des questions, mesdames ?
Bah non, on y va.
Je sens que t'es motivée. Alors je rappelle quand même que c'est fictif, hein.
Oui.
Parce que vous partagerez vos productions après les musiques, mais bien sûr c'est fictif. Quand on fait un atelier d'écriture, moi j'aime bien toujours rappeler pourquoi c'est intéressant de faire ces exercices-là. Là, on va être dans l'humour, là, même, j'ai envie de dire, la caricature. Et on va aussi travailler sur une écriture des émotions, sur un lâcher-prise. Donc, c'est pas toujours facile de n'avoir aucune retenue à l'oral ou à l'écrit. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué dans notre quotidien, surtout en entreprise. On disait faire attention aux égos, mettre son égo de côté et tout ça. Donc du coup, on est toujours un peu dans le politiquement correct. Là, vous allez pouvoir vous lâcher. et bien sûr, donc sous la contrainte de temps, ces fameuses 8 minutes. Je vous laisse commencer. C'est parti. Nous, on va partager un petit interlude musical pendant ce temps-là. On va commencer avec que des morceaux good vibes hein, aujourd'hui. Tiens, une musique qui m'a été soufflée par Anne, d'un compositeur français, Mandonville, avec son Dominus Regnavit 4. Et c'est parti. Allez.
Yeah.
Merci Anne de nous avoir soufflé ce petit classique qui donne la pêche. Je sais qu'en plus tu as envie de chanter dessus avec une prochaine chorale, donc c'est vraiment cool. On enchaîne avec Have a Nice Day des Stereophonics et c'est tout ce que je vous souhaite pour ce week-end.
I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where are you from? We told him a lot. You take a holiday, is this what you want?
Voilà, nous voilà de retour dans la voie de la plume. Nos invités viennent de finir leur atelier d'écriture. Je vois les stylos qui se posent. On remet les casques sur les oreilles. Alors, est-ce que ça vous a paru difficile d'écrire en 8 minutes ?
Pour ma part, oui.
Alors, je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais dire et c'est venu en cours. Et merci pour la musique, ça m'a vachement inspirée, ça m'a boostée en fait.
Ah, super. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà dû faire, écrire une lettre de démission ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous avez mis du vécu dans votre mail du jour ?
Alors, à l'écriture, non, mais il y avait peut-être un vécu intérieur que j'avais pu exprimer, mais que je n'aurais jamais écrit sur une lettre de démission.
Oui, ah oui, d'accord. Tu as pu faire ressortir tes émotions.
C'est plein de...
Super. Est-ce que vous êtes prête à partager avec nos auditeurs ce que vous avez écrit ?
D'accord.
Oui.
Mmh.
Qui commence ?
Bah, moi, je n'ai pas totalement terminé, mais je peux partager.
Attends, on va suivre la première règle que Anne nous a dit tout à l'heure. On écrit avec bienveillance et on ne juge pas les autres, donc il n'y a pas de souci.
Alors, ma lettre, elle commencerait par « Libérer, délivrer ». C'est décidé, je m'en vais. Eh oui, ce serait mon démarrage de ma lettre. Et j'ai mis « Eh oui, cher patron, après 10 ans de loyaux services, je n'en peux plus ». La situation actuelle et votre micromanagement me poussent vers cette direction. Vos KPI, vos pressions n'auront plus d'effet sur moi. C'est pourquoi vous trouverez en ce document ma lettre de démission. J'en profite pour vous glisser le livre « Le bonheur au travail » qui pourrait vous servir pour la suite afin d'aider mes collègues restants. Pour ma part, je pars vers votre horizon. Bon, j'ai pas...
Ah, génial. En plus, tu fais de la promo pour le livre. J'adore.
Bah, pour les aider, parce que j'ai des collègues qui restent. Tout le monde n'a pas le cran de partir quand on est des fois pas bien.
C'est vrai. Merci Alex, c'est super.
Super, bravo.
Merci.
Anne, vas-y, on t'écoute.
Allez, on y va. Monsieur le directeur, au vu de la situation sanitaire actuelle, le métier de responsable du bonheur en chef est devenu plus stratégique que jamais. C'est donc avec un regret fin et une joie non dissimulée que je vous présente ma démission. Une offre vient de m'être faite pour le tiers de mon salaire et 9 semaines de congé. 9 semaines considérées pour le poste de Chief Happiness Officer dans une école d'ingénieurs. Vous comprendrez qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour faire un choix. Le bonheur est une question trop sérieuse. J'ai décidé de m'y consacrer à plein temps, vacances comprises. Je vous souhaite donc beaucoup de bonheur pour la suite. D'ailleurs, je vous enjoins à vous poser la question. C'est quoi pour vous le bonheur au travail ?
Question ouverte. Merci Anne. Du coup, tu démissionnes d'un poste fictif pour aller dans ton poste actuel. Ça, c'est beau.
Oui, oui. Ouais. Qui a dit que c'était fictif ?
Écoute, moi, je le dis, mais d'accord. Peut-être qu'on va laisser planer le doute alors.
Disons que je me suis mise dans la position de démissionner de mon poste précédent pour arriver dans le poste où je suis, en effet.
Donc vos expériences d'avant vous ont permis quand même, en 8 minutes, d'avoir du vécu dans ce mail de démission.
Exactement.
Super. Bah, merci d'être venue aujourd'hui, d'avoir fait entendre votre voix et d'avoir pris la plume. Moi, j'aime toujours beaucoup ce que les gens arrivent à produire en 8 minutes. Ça me laisse toujours béate. À vous qui nous écoutez, peut-être vous avez eu envie aussi de faire cet exercice. Donc n'hésitez pas à déposer vos textes sur la page Facebook de la radio ou à me l'envoyer en MP sur Insta, AYGBleu. Voilà, je les posterai en story dès ce soir. Cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez été contente de participer autant que j'ai été contente de vous recevoir.
Totalement.
Merci.
Un grand merci d'avoir fait le déplacement. Bon, Alexandra, t'habites pas très loin. Mais Anne, t'es quand même venue de Paris. C'est sympa. Que dire d'autre ? On va rappeler où on peut trouver le livre, bien sûr. Donc sur le site des éditions Les Passagères, sur n'importe quel site de librairie. Oui. Et dans toutes vos librairies habituelles, en rayon ou sur commande.
Oui, oui, et faites vivre vos librairies, je vous en supplie.
On ne l'a pas dit, mais il y a aussi une page Facebook sur la trilogie, si les gens sont intéressés.
Oui, d'ailleurs, on s'est même amusé à créer les personnages sur Facebook. C'est un peu vieux maintenant, mais vous pouvez aller les réveiller, ils répondront.
Ah, sympa. Donc ça s'appelle Le Bonheur au Travail, la page Facebook ?
Oui, hashtag LBAT, Le Bonheur au Travail, oui.
Super. Ah oui, LBAT 1, 2, 3 même, il me semble, c'est ça. Comme il y a la trilogie.
Exact.
Tout à fait. Bah, super. Donc voilà, si vous avez envie de contacter les auteurs directement ou les personnages directement, eh ben, voilà, vous pouvez aller sur la page Facebook du livre, des livres. On rappelle aussi à nos auditeurs que s'ils veulent un livre dédicacé sur le bonheur au travail et même sur les livres des émissions précédentes, c'est possible. Je suis toujours en contact avec les auteurs, donc qu'ils n'hésitent pas à me faire signe. Alexandra, merci d'être venue témoigner aujourd'hui, je le redis, c'est vraiment sympa.
Merci de l'invitation.
Et puis, Anne, j'espère que ton appel à des projets de co-écriture va faire écho.
Merci, Aurore.
Et que ça amènera à de nouveaux livres sympas pour l'avenir. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos et les podcasts des émissions sur mon site web, lessynergiesd'aurore.fr. Et en général, je les mets aussi sur Insta. On va se quitter au son de Happy de Pharrell Williams. Ah, donc je vous dis bye bye à tous, lecteurs avisés et écrivains en herbe.